pas si vous avez vu les images en fin de semaine. Beaucoup d'actions encore en Paris avec le mouvement des gilets jaunes. C'est quoi ça déjà, hein? Les gilets jaunes? On va en parler, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont finir par trouver une solution? Est-ce qu'il pourrait y avoir des gilets jaunes au Québec un jour? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question? On va aller rejoindre notre collègue Fabrice de Pierrebourg, journaliste au 98.5 qui est sur place à Paris. Fabrice, bon matin pour nous, bon midi pour toi.
C'est exact. La journée est déjà bien avancée.
Oui, alors on va juste commencer. S'il y a des gens qui nous écoutent ici au Québec, là, ils ont entendu l'expression, mais ils ne savent pas trop c'est quoi les gilets jaunes. Résume-nous un peu, c'est quoi ce mouvement-là en France?
Les gilets jaunes, je te dirais que c'est un mouvement de ras-le-bol des Français qui est parti au départ d'une augmentation des prix de l'essence qui était prévue pour le mois de janvier. Il faut savoir que l'essence est très chère ici, et en particulier le gazole, qui est une essence qui a été longtemps, je dirais, poussée par le gouvernement, parce que beaucoup de voitures françaises roulaient avec ce carburant-là, qui est un carburant au départ qui était économique et qui permet aussi aux gens, les gens utilisent beaucoup leur voiture ici, même si les transports en commun sont très développés, mais en région, petit à petit, on a supprimé des lignes de train, etc. Donc, ça a été un peu la goutte d'eau ou la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Et depuis, finalement, ce mouvement des gilets jaunes, c'est un peu le reflet de toutes les frustrations d'une partie des Français, des classes moyennes, des petits commerçants, des petits entrepreneurs, des agriculteurs. Et pourquoi le gilet jaune? Eh bien, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, quand on a une voiture en France, on est obligé d'avoir ce gilet dans le coffre avec d'autres équipements de sécurité, parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, il y a souvent des accidents, une crevaison, on est arrêté sur le bord de la route, puis on se fait frapper, donc c'est pour être vu. Donc c'est devenu un peu le symbole de cette rébellion qui a pris de l'ampleur, et depuis, je dirais, 3-4 semaines, c'est ce qu'on voit à la télévision. D'un côté, il y a des barrages qui sont plus ou moins pacifiques partout en France, des occupations, des blocages de dépôts pétroliers, et tous les samedis maintenant, il y a des manifestations dans les grandes villes et à Paris. Puis on a vu ce que ça a donné, puisque c'est des manifestations qui permettent à des casseurs, soit l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, ou aussi des jeunes venus des banlieues, de se défouler, de se mêler à cette foule-là, et d'en profiter, surtout en ce moment, peut-être pour faire ses achats, entre guillemets, de Noël, quoi.
OK, parce que là, ce qu'on a vu en fin de semaine, au départ, ils bloquaient des routes, etc., ils se rassemblaient, mais là, c'était vraiment des scènes de casse. On appréhendait le pire, notamment samedi. On nous dit que ça a été finalement, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de violence, mais peut-être moins pire que ce qu'on appréhendait. Tu étais dans les rues à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as vu?
C'est une sacrée journée quand même, parce qu'il y a eu 12 heures de casse à Paris. Alors, on sait qu'il y en a eu aussi à Bordeaux et à Toulouse. Effectivement, c'était moins spectaculaire que le samedi d'avant. On a vu, par exemple, un symbole fort comme l'Arc de Triomphe, où il y a la tombe du soldat inconnu, être saccagé, tagué, des grosses barricades. Cette fois-ci, les policiers avaient pris les grands moyens. Il faut savoir qu'il y avait 8000 policiers et gendarmes mobiles à Paris. Gendarmes mobiles, c'est aussi une unité anti-émeute, qui étaient venus avec des blindés, des véhicules blindés, mais pas des blindés de l'armée. Mais c'est des blindés avec des lames qui permettent de dégager les barricades et aussi de tirer des gaz lacrymogènes un peu partout. Donc, et aussi avec beaucoup de policiers en civil, moi je les ai vus faire, c'est des policiers, entre autres ceux qui sont intervenus au Bataclan, ce qu'on appelle les BAC, les brigades anticriminalité. C'est des gars assez sportifs en général, ils sont en jeans, chaussures de sport, blouson de cuir, casque, matraque. Et eux, leur job, c'était d'aller arrêter les casseurs au milieu des groupes, puis de les extraire, de les sortir de la manif et de les mettre en état d'arrestation. Il y a quand même eu beaucoup de dégâts. La ville de Paris dit que, paradoxalement, il y a eu beaucoup plus de dégâts que samedi dernier. Puis moi, je l'ai constaté aussi parce que l'effet que ça produit inverse, c'est que les casseurs n'ont pas pu faire de grosses barricades ou faire des actions d'éclat comme l'Arc de Triomphe, mais se sont disséminés dans les rues. Okay. Puis moi, j'ai essayé de calculer ce matin, là, les ravages, ça s'étend à peu près sur 5,5 kilomètres d'un côté de l'ouest de Paris, au-delà de l'Arc de Triomphe, pour ceux qui connaissent la Porte Maillot, jusque vers le centre, le centre-est, la place de la République. Ça a duré d'environ 10 heures le matin à 10 heures le soir.
Et comment les politiques réagissent, là? Parce que là, déjà, je sais qu'il y a eu un peu de recul, mais on voit, tu l'as bien décrit, la colère gronde encore, puis les extrémistes sont dans les rues. Comment on va résoudre cette crise-là? Est-ce qu'on commence à anticiper, à voir une solution?
Mais les gens sont pessimistes. Déjà, à Paris, c'est sûr que les gens étaient en colère. Moi, hier, je suis allé voir les dégâts. Les commerces souffrent. On sait que l'économie commence à souffrir. Parce que c'est l'époque, effectivement, où les gens sortent pour faire leurs achats de Noël. Les chiffres, la croissance commence à baisser. Chaque samedi, les magasins sont fermés ou barricadés. À un moment donné, ça va devenir, pour les commerçants, difficile à rattraper. Donc, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement. Et ce soir, hors de Paris, le président Macron doit enfin intervenir à la télévision. Tout le monde le réclamait depuis longtemps. et y compris dans son camp, dans son parti, évidemment, dans les partis d'opposition, dans les syndicats, chez les Gilets jaunes, on attend des décisions très fortes de sa part ce soir. Les gens, ce qu'ils veulent ici, ce qu'ils nous disent, bon, c'est sûr que ce week-end, moi, j'entendais beaucoup des Macron démission, puis d'autres mots, je dirais, à connotation sexuelle que je répéterai pas ici, là. Mais au final, ce qu'ils veulent, c'est regagner du pouvoir d'achat. Ils s'attendent à ce qu'ils baissent une partie des taxes, qu'ils remontent le salaire minimum. Et ce matin, petite anecdote, j'ai pris un taxi pour aller dans l'est de Paris. C'était une femme d'une quarantaine d'années qui conduisait. Je vais faire taxi, ils écoutent tout, hein.
Ouais.
Ils écoutent tout ce que disent les gens à l'intérieur, puis ils regardent. Évidemment, elle était contre les saccages. Elle dit qu'il faut être exemplaire envers les casseurs, faut les envoyer en prison. Mais la seule chose qui la ravissait, c'est que le Starbucks qui est en face d'une gare a été complètement saccagé, puis dessus c'était marqué paye tes impôts. Et elle disait c'est vrai que ça c'était bien ce qu'ils ont fait les casseurs, parce qu'elle dit c'est pas normal que des multinationales ne payent pas d'impôts en France ou planquent leur argent à l'étranger. Donc c'est un peu ça. Elle était un peu le reflet de cette frustration, qu'elle disait il faut que Macron prenne des décisions, il faut qu'il annonce des choses ce soir, on en a marre. Parce que si on est à chaque fois qu'on essaye de gagner un petit peu plus d'argent avec du temps supplémentaire ou des choses comme ça, boum, les impôts augmentent. Alors c'est un peu ça l'idée. Ce soir, son défi va être énorme. S'il veut pas une nouvelle manifestation, parce que déjà sur Facebook, il y a plusieurs groupes, parce que c'est comme ça que ça se propage, hein, ces manifs-là. Il y a plusieurs groupes qui appellent déjà une manifestation pour samedi prochain. Puis là, on va être à une semaine de Noël, donc ça risque d'être un peu plus catastrophique, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice, de nous avoir parlé ce matin. Merci.
Salut Sylvain.
Bonne journée, 6h56. Est-ce qu'on pourrait avoir ça chez nous? Alors Fabrice vous a décrit un peu ce qui s'est passé en fin de semaine, le mouvement. On attend des réponses aujourd'hui, ce soir, du président. La colère des Français, de certains Français. Au départ, c'était assez pacifique. Maintenant, ça devient violent. Ils se disent infiltrés par des extrémistes de gauche, de droite. Est-ce qu'on pourrait avoir un mouvement comme ça ici? Ben, là, d'abord, il y a une énorme différence sur le prix du gaz. Mmh. C'est pas pareil, là. Mais si, un jour, ils décident d'ajouter 10 cents, 15 cents, 20 cents sur l'essence ou paf, comme ça, du jour au lendemain, pour des raisons qui sont peut-être pas à la base mauvaises, mais sans penser aux impacts en région notamment. Tu pourrais avoir, parce qu'on dit souvent que c'est deux Frances qui s'affrontent. Là, hein? Puis Fabrice en a parlé aussi. Là. La France urbaine paye pas le même prix. Il y a du transport en commun, il y a des métros, il y a des tramways, que ce soit à Nice, à Bordeaux, à Paris, Marseille, Lyon. Ça c'est un monde, ça. Et il y a une autre France où là, tu n'as pas le choix d'avoir un véhicule. Là, où les taxes sur l'essence te frappent durement. Et déjà, ils ont un taux de chômage parfois de 10, 15, 20 % parce que la mondialisation, notamment chez les agriculteurs et autres, ça a frappé fort en France. On n'a pas ça ici. Le taux de chômage est encore bas. Mais admettons, si le taux de chômage monte, si l'essence grimpe, moi, je pense qu'on pourrait avoir de quoi du genre ici, mais le contexte, pour l'instant, est différent.
Il est différent, c'est vrai. Par contre, il y a des régions au Québec où, par les services de transport en commun, disons que c'est pas fort fort, où t'as pas le choix d'avoir un véhicule. On a des régions aussi où le taux de chômage est assez élevé. Alors, c'est certain que c'est pas exactement le même contexte, mais je peux comprendre la frustration de ces gens-là quand le prix de l'essence monte assez drastiquement, parce qu'ils ont pas accès au transport en commun. Et pourtant, ces gens-là, dans les régions, ils payent aussi pour le tramway ici à Québec. Ils payent pour le pont Champlain. Ils payent pour via leurs taxes pour toutes les infrastructures desquelles ils bénéficieront pas finalement. Là.
Ben oui, alors il faut faire attention. Je pense que c'est un message à envoyer à tous les politiciens qu'il y a une limite à un moment donné. Quand tu donnes, quand tu poses des gestes pour des raisons vertes, environnementales qui peuvent être justifiées, ça peut avoir du bon sens. Il faut penser que c'est pas, on vit pas tous la même réalité.
C'est sûr.
Alors, 6 ans, tu sais, si tu es au centre-ville de Québec, puis tu habites un condo à 400 000 au centre-ville de Québec, tu prévois prendre le tramway qui va coûter, vous le savez, 3 milliards pour aller à ta job. C'est facile de dire que tu es contre le troisième lien. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin. T'habites où? Centre-ville, colline parlementaire, condo de 400 000, j'attends le tramway de 3 milliards. Pas besoin. Pas bon. Pour toi. Là, tu penses juste à toi, là. De toute façon, anyway, je suis pas un adversaire du transport en commun. Moi, j'essaye de penser aux autres. Mais pour certains, ce sera extrêmement utile, le troisième lien. Comme l'élargissement de Laurentienne a été utile. On le voit, là.
Comme le tramway est utile aussi pour certaines personnes.
Voilà. Essayez de penser aux autres un peu. C'est beaucoup le combat d'une certaine élite dans les grands centres contre une réalité plus rurale ou plus banlieusarde.